السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chers sœurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui s'intitule la miséricorde divine. La miséricorde divine. Comment parler de cette miséricorde qui nous entoure et dans laquelle nous baignons et dans laquelle nous baignons et dans laquelle nous vivons et qui se manifeste à tous les niveaux de notre vie, à travers toute la création de Dieu subhanahu wa ta'ala, cette miséricorde se manifeste. De la plus petite cellule dans notre corps, jusque dans les dimensions les plus astronomiques de cet univers que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé. Donc dans cette intervention, je ne prétends nullement parler du miséricordieux, de Dieu Ar-Rahman, parce que ceci est réservé aux experts. Dieu, il dit dans le Coran, Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Quant au miséricordieux, interroge à son sujet un expert. Mais j'évoquerai, incha'Allah, modestement, la manifestation de cette miséricorde divine à travers sa création et dans notre vie de tous les jours. Et nous commencerons par évoquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annonce à tous, hommes ou femmes, de tous bords, de tout pays, de tout endroit, de toute catégorie sociale, qui se réunissent uniquement pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils se réunissent pour se rappeler Dieu subhanahu wa ta'ala, pour se rappeler le miséricordieux, pour se rappeler les bienfaits que Dieu nous a donnés. Ces gens-là, écoutez ce que Dieu subhanahu wa ta'ala leur réserve dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce une bonne nouvelle. Annonce une nouvelle à tous ceux qui se réunissent pour lui. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison de Dieu ou dans tout autre endroit où l'on parle de Dieu subhanahu wa ta'ala et qui se réunissent pour étudier, méditer le livre de Dieu, la révélation. Ces gens-là, lorsqu'ils se réunissent, ils ont des récompenses. Ces récompenses, c'est lesquelles? La première, c'est que la paix les enveloppe. C'est que la paix les enveloppe, les entoure. Et combien nous avons besoin d'être apaisés dans nos cœurs, dans une société où tout le monde, où les gens qui meurent du stress, le taux de gens qui meurent du stress est beaucoup plus élevé que les gens qui meurent dans les accidents de la route, mais on ne le signale pas, on ne le dit pas, parce que c'est une maladie silencieuse, c'est une maladie personnelle, et nous avons besoin d'être apaisés. Et subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ceux qui se rassemblent pour Dieu, Dieu subhanahu wa ta'ala les enveloppera de l'apaisement et fera descendre sur eux la miséricorde. Fera descendre sur eux la miséricorde et les anges les entoureront. Les anges les entoureront et Dieu subhanahu wa ta'ala les mentionnera auprès de lui. C'est-à-dire que des choses incroyables. Des choses, c'est-à-dire c'est une assise divine, une assise spirituelle, une assise où les anges sont présents, il faut avoir cette certitude, où la miséricorde enveloppe les gens, où la paix, l'apaisement envahit les cœurs. Et le message de l'islam, chers frères et chères sœurs, est une invitation justement à percer les voiles de notre cœur, ces voiles qui nous empêchent de voir et de contempler cette miséricorde et la manifestation de la miséricorde divine à travers la création. Ce même message nous invite également à nous imprégner, nous tous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, à nous imprégner de cette miséricorde et à la répandre autour de nous. Prendre conscience spirituellement de cette miséricorde doit nous conduire à une véritable remise en question de notre façon de vivre l'islam, de le prêcher, de l'enseigner, de l'étudier. Et étudier l'islam, pratiquer l'islam, prêcher l'islam, enseigner l'islam, appliquer l'islam en le dénuant de cette miséricorde, c'est le plus grand tort que l'on puisse faire à ce noble message. Donc, durant cette intervention, on va essayer de voir les différentes manifestations, comme on l'a dit, de cette miséricorde divine à travers la création. Parce que dans l'islam, on ne peut pas percevoir, on ne peut pas concevoir la divinité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout. Donc, dans l'islam, Dieu subhanahu wa ta'ala, l'être humain comme il est constitué, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas percevoir et il ne peut pas envelopper de sa science la divinité, mais Dieu subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout cela. Mais ce que Dieu nous demande pour le découvrir, pour le connaître, c'est de le découvrir, de découvrir sa signature, je dirais, sa signature à travers sa création. À travers sa création, Dieu subhanahu wa ta'ala se manifeste à travers toute sa création. C'est pour ça que le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, invite les croyants à méditer sur la création, à méditer sur leur existence. Et c'est cette méditation qui mènera justement à découvrir dans les plus petits détails de notre vie jusqu'aux plus grandes choses de cet univers, cette miséricorde divine. De tout temps, l'être humain a essayé de donner une explication à son existence et par conséquent une vision qu'il se fait de la création. Et les philosophies, les théories, les religions et les idéologies ont donné leur vision et leur approche de la création. Et si on fait un petit saut en arrière dans l'histoire de l'islam, avant l'islam, dans la péninsule arabique, les Arabes qui vont recevoir ce message, qui vont recevoir cette miséricorde, comment étaient les Arabes? Les Arabes étaient la seule chose, une des seules choses dans laquelle ils excellaient, c'est la langue arabe, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est la poésie. Et à travers cette poésie, ils concevaient toute l'existence, ils concevaient, ils donnaient, ils faisaient véhiculer leur vision de la création, et ils faisaient véhiculer à travers la poésie leur pensée et leur vision de cette existence. Et le Coran a été, comme vous le savez, révélé en langue arabe, et bien que les Arabes, comme on l'a dit, étaient des gens qui excellaient dans la langue arabe, dans ce domaine, beaucoup de versets sont restés opaques pour l'esprit de ces poètes du désert. La cause, elle est due à leur contexte culturel qui était dominé par des philosophies étrangères qui donnaient une vision de l'existence bien réduite et bien matérielle, même voire barbare, comme on va le voir dans quelques exemples. Les Arabes n'avaient aucune civilisation scientifique ou culturelle. C'est pourquoi la langue arabe ne véhiculait, n'était là que pour véhiculer la poésie. Et lorsque viendra le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde pour les mondes, lorsque le message de l'islam viendra, lorsque l'heure sonnera pour que le prophète de l'islam apparaisse, l'islam, le Coran, Dieu subhanahu wa ta'ala, sur des années, étape par étape, corrigera cette vision du monde, corrigera cette vision réduite et dénuée de toute miséricorde de la vie. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate qui se nomme les poètes, Ash-Shu'ara, où il dénonce justement les excès, les exagérations de ces poètes qui expliquaient toute la création, qui expliquaient le sacré, la divinité à travers leur compréhension littéraire et leur compréhension réduite qui était influencée par les philosophies matérialistes, qui était influencée par les philosophies polythéistes. Et au fur et à mesure, Dieu subhanahu wa ta'ala, par la révélation, corrigera et amènera les gens, les Arabes et les non-Arabes par la suite, à accepter de voir ce monde sous un autre angle, de voir la création sous un autre angle, celui de l'angle de la miséricorde. Puis, Dieu subhanahu wa ta'ala, après la révélation de ses sourates, les poètes, etc., il révélera également un de ses noms. Un de ces noms que les peuples ignoraient, que les peuples avaient abandonné, que les peuples, dans leurs relations et dans leur vie de tous les jours, avaient perdu de vue. C'est le nom de Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le nom du miséricordieux était inconnu et étrange à l'esprit des Arabes. Et dans un verset, Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا » Et quand on leur dit « prosternez-vous devant le tout miséricordieux », ils disent, les Arabes, « qu'est-ce que donc le tout miséricordieux ?» lorsque la révélation venait en prononçant le nom du tout miséricordieux, c'était inconnu pour eux. Et il y a eu un événement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète dans les débuts de l'islam était amené à signer un pacte avec certaines personnes non musulmanes, le prophète s'est réuni et il y avait le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, qui était chargé d'écrire, parce que le prophète ne savait pas écrire, le prophète était analphabète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le prophète ordonne à Sidna Ali d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Et celui qui est en face, il dit qui c'est Ar-Rahman Ar-Rahim? On ne connaît pas Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc efface ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait que les gens puissent accepter le message, était prêt à faire des concessions sur le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous met aussi, ça nous donne à réfléchir lorsqu'on veut faire passer le message le plus important aux gens, de faire certaines concessions et de savoir peser les priorités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, radiallahu anhu, efface. Et Ali a eu peur d'effacer le nom de Dieu. Comment est-ce que je vais effacer Bismillahir Rahmanir Rahim? Il a refusé d'effacer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mets-moi mon doigt là où c'est moi qui va l'effacer. Et Ali radiallahu anhu, il met le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la formule Bismillahir Rahmanir Rahim et c'est le prophète lui-même qui l'efface. Et après il lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'on écrit? Il lui dit, écris Bismikallahum. Parce que les Arabes ne connaissaient que ça. Ils ne connaissaient la divinité qu'à travers le côté dur, seulement le côté de la force, etc. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans leur société, c'était vraiment la barbarie. La barbarie, il n'y avait pas de miséricorde. Et lorsqu'il écrira après, c'est un contrat entre Muhammad Rasulullah et un tel. Il lui dit, si je te reconnaissais comme envoyé de Dieu, je ne te ferai pas la guerre et je ne ferai pas un contrat de paix avec toi. Écrit Muhammad ibn Abdillah. Et là encore, Ali radiallahu anhu, il n'ose pas effacer Rasulullah. Parce qu'il a effacé le nom du prophète et le messager, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui efface. Donc la situation des Arabes était catastrophique et leur vision de ce monde et de leur existence l'était également. Et vous connaissez tous les histoires des compagnons radiallahu anhum, hommes ou femmes avant l'islam. Voici Omar qui raconte une fois que Dieu l'a comblé de l'islam et il se met à pleurer. Et les compagnons lui demandent, pourquoi tu pleures ô Omar? Il dit, je me souviens d'un événement avant l'islam. J'avais une petite fille qui était âgée à peu près de 5, 6 ans. Imagine une petite fille de 4 ans, 3 ans. Et lui dit, je l'ai pris parce que c'était notre tradition. C'était notre tradition que d'enterrer les filles vivantes. J'ai pris ma petite fille par la main et je suis sorti loin dans le désert et j'ai commencé à creuser un trou alors qu'elle est à côté de moi en train de jouer. Innocente, la candeur, le don de Dieu, il va l'enterrer. Et il creuse le trou. Et lorsqu'il creuse le trou, il l'enterre vivante. Et elle lui enlève les graines de sable qu'il y a sur sa barbe. Il dit, quand je me souviens de cette scène, j'ai le cœur qui se déchire. J'ai le cœur qui meurt, qui est blessé. Et c'est pour cela que je pleure. Et on va voir, subhanallah, comment cette miséricorde divine a choisi des gens qui étaient les pires barbares. Et comment elle les a choisis, comment Dieu les a transformés par cette miséricorde divine. Ils sont devenus des gens qui pleurent à longueur de journée. Des gens qui pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. Également, rappelez-vous de la situation de la femme à cette époque. Si on enterre une fille vivante, et c'est une tradition, que dire de la femme qui a échappé à la mort, qui est restée vivante, comment elle va devenir? Ce n'est pas un animal, c'est pire qu'un animal. Elle était irritée. Lorsque quelqu'un, le mari meurt, c'est le père qui l'hérite, c'est les frères qui l'héritent. Lorsqu'elle avait ses règles, elle ne pouvait pas rentrer dans la maison, elle restait dehors comme un chien. Elle était maltraitée, elle était battue. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Et si nous, à cette époque, on nous reproche ce manque dans nos pays, ou même dans notre vie quotidienne, c'est parce que c'est cette miséricorde qui a échappé de nos cœurs, c'est cette miséricorde qui a été enlevée, c'est parce qu'on a perdu le côté de miséricorde dans la révélation. Également, les Arabes étaient des gens qui vivaient, leur passe-temps c'était les guerres tribales. Les guerres tribales, des guerres qui commençaient par une insulte et qui se terminaient par des guerres de plusieurs années. de plusieurs années. Jusqu'à ce qu'il y ait des générations qui viennent après, ils ne savaient même pas pourquoi ils faisaient la guerre, parce que leurs parents avaient commencé et leurs ancêtres avaient commencé cette guerre. Donc imaginez une société, comment elle va être transformée, et comment Dieu subhanahu wa ta'ala a choisi une société comme celle-ci, à travers toute la terre, pour que se manifeste quoi ? Se manifeste la véritable âme de cette religion, qui est la miséricorde. Et c'est dans ce contexte de barbarie que va se manifester la miséricorde divine qui va à jamais changer les Arabes et le cours de l'histoire mondiale. Et ce que vit le monde actuellement en Occident comme solidarité, comme altruisme, comme droit de l'homme, et n'est que l'héritage de cette miséricorde qui a été véhiculée par les véritables musulmans, par les premières générations musulmanes qui représentaient véritablement l'islam, et pas seulement un islam extérieur, mais c'était l'âme. Avant qu'il ne parle, l'ambiance était déjà préparée, parce que la miséricorde est quelque chose d'invisible, mais qui existe réellement. Qui existe réellement. Nos paroles doivent être enveloppées de miséricorde et envoyées dans les cœurs des gens. Nos gestes doivent être enveloppés de miséricorde et doivent être envoyés aux gens. Notre façon d'être et de vivre en islam doit véhiculer la miséricorde. Et la miséricorde dans le cœur des musulmans, elle doit être comme ce bâton d'encens que lorsqu'on l'allume et on ne le voit pas, on le sent. On le sent, il est là. On le sent, il est là, mais on ne le voit pas. Le musulman, il doit allumer cet encens dans son cœur, qui est la miséricorde divine. Vient ensuite la révélation de la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Une sourate qui se nomme le tout miséricordieux. Et une sourate qui vient donner l'identité de cette divinité chez les Arabes. Ar-Rahman, et après il cite toutes les miséricordes à travers la création. La manifestation de la miséricorde divine à travers toute la création. Elle commence par la religion, et elle passe par la vie, et elle passe par les plantes, par le ciel, par la mort, et la miséricorde dans l'au-delà. Cette sourate viendra pour expliciter justement et répondre aux interrogations des Arabes qui se sont dit « Wa marrahman, c'est quoi le tout miséricordieux ?» Viendra ensuite la révélation de la formule d'ouverture de chaque sourate, la basmala, bismillahirrahmanirrahim, qui est un message clair qui va être révélé dans cette sourate, qui va montrer que cette sourate qui a été révélée vient du miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est un message clair, la révélation tout entière est une miséricorde divine. Regardez le Coran, vous prenez la première sourate, il y a 114 sourates dans le Coran, et il y a 114 Bismillahirrahmanirrahim. Je dis bien 114 Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi ? Il y a une sourate qui ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le Clément, le Tout Miséricordieux, c'est la sourate At-Tawbah Bara'a. Et la raison pour laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala ne commence pas cette sourate par Bismillahirrahmanirrahim, c'est parce que Dieu subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il parle de son châtiment, il parle de sa justice, il parle de ceux qui ont semé la corruption sur terre, de ceux qui ont combattu les innocents, de ceux qui ont fait perdre la vie à des innocents, de ceux qui ont emprisonné, tué, humilié, méprisé ceux qui disaient la ilaha illallah, ou de ceux qui ont été injustes tout court envers toute créature de Dieu subhanahu wa ta'ala, croyante ou non croyante. Cette sourate est réservée, donc Dieu subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une sagesse que de commencer une série de châtiments par au nom de Dieu le Clément miséricordieux. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu montrer que sa miséricorde dépasse toute chose, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la création, il a dit, et lorsqu'il a fini de créer la création, il a dit, ma miséricorde a pris le dessus sur mon courroux. Ma miséricorde a pris le dessus sur mon courroux. Et cette sourate, cette formule de Bismillahirrahmanirrahim qui manque, puisqu'il n'y en a que 113, elle se retrouve dans sourate An-Naml, où Dieu subhanahu wa ta'ala, Sulayman, Salomon, écrit une lettre à la reine de Saba pour l'appeler à cette miséricorde, pour l'appeler au miséricordieux, pour l'appeler à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit « Innahu min Sulayman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim ». Ce message vient de la part de Sulayman, et c'est au nom de Dieu, le Clément, le tout miséricordieux. Donc 114 sourates, 114 Bismillahirrahmanirrahim, et chaque fois qu'on lira une sourate, la lire avec cette vision, que tout ce qui est révélé dans cette sourate nous veut nous dire la miséricorde. Faut chercher la miséricorde, faut méditer. Elle est où cette miséricorde ? Et c'est comme si le Coran, en s'adressant aux Arabes et aux Quraysh, semble leur dire « Pourquoi ne regardez-vous pas la création à travers l'œil de la miséricorde ? Ne voyez-vous pas la raison d'être de toute créature et de toute la création et justement cette miséricorde ? Ne voyez-vous pas que le miséricordieux s'est donné pour règle dans sa création la miséricorde ? Ne voyez-vous pas cette miséricorde dans le plus grand don que Dieu vous a donné, qui est la révélation, qui est le Coran, qui est la religion, qui est la foi ? Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Le miséricordieux, le tout miséricordieux, a enseigné le Coran. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, dans sa sourate, fait précéder Al-Qur'an, la révélation, avant tous les autres bienfaits, parce que c'est considéré comme le plus grand fait, le plus grand bienfait, c'est la religion. C'est l'islam, c'est le message de paix et de miséricorde. Ar-Rahman, allam al-Qur'an. Vous les Arabes, il s'adresse à eux, il leur dit, ne voyez-vous pas cette miséricorde dans la création de l'homme ? Khalaq al-insan, allamahu al-bayan. Il a créé l'homme et il lui a donné l'éloquence. Il a créé l'homme et il lui a donné l'éloquence. C'est encore un bienfait. Et la miséricorde, si on médite notre création, l'être humain, il n'a même pas besoin de regarder le ciel, les étoiles autour de lui, ni le monde microscopique, macroscopique, il se regarde lui-même, il regarde ses doigts, il regarde ses yeux, il regarde, il médite son sommeil, il verra que tout est miséricorde, wa fi anfusikum afala tubsirun, et dans vous-même, en vous-même, il y a des signes, certes, si vous êtes clairvoyant. Ne voyez-vous pas cette miséricorde dans la création du soleil et de la lune, ash-shamsu wal qamaru bihusban. Le soleil et la lune sont créés avec une harmonie, avec calcul. Ils sont calculés. Regardez, subhanallah, la place de la Terre dans le système solaire. Subhanallah, lorsqu'on regarde les différentes planètes, il y a des planètes qui disent inhabitables, des planètes qui sont oscillent, des planètes, le jour il fait plus 400 degrés, et la nuit fait moins 400 degrés, où il y a des pluies d'acide, où il y a. Et nous, sur notre terre, yani, comme par un hasard incroyable, et ce hasard, c'est pas le hasard, c'est la miséricorde divine, qui a placé la terre par rapport au soleil, si elle était trop près, la vie ne pourrait pas exister, et tout ce qui est sur terre brûlerait et serait brûlé. Et si elle était un tout petit peu plus loin du soleil, toute vie sur terre n'existerait pas, parce que tout serait glacé. Mais Dieu, par son calcul, le soleil et la lune sont là avec harmonie, ils sont bien calculés, chaque chose est à sa place, et même cet univers, chaque atome est là avec miséricorde, parce que c'est qui l'a placé ? C'est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ne voyez-vous pas cette miséricorde dans la création de l'herbe et des plantes et des arbres qui, eux, se prosternent devant le tout miséricordieux ? وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ L'herbe et les arbres se prosternent devant le miséricordieux. Ne voyez-vous pas cette miséricorde dans la création harmonieuse des cieux ? وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِزَانَ Et le ciel et les cieux et le ciel, il l'a élevé et il a avec pesée, avec harmonie, avec harmonie. C'est pour ça que les grands savants, les savants qui étudient, qui méditent cet univers, et le musulman est le premier qui doit méditer et réfléchir, cet univers est un livre où se manifeste la puissance de Dieu, où se manifeste l'unicité de Dieu, où se manifeste la puissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Einstein il disait, Dieu ne joue pas avec les dés. Dieu ne joue pas avec les dés, tout est calculé, tout est pesé, tout est à sa place, tout est harmonie, rien n'est désordre. Cette sourate sera tout le long ponctuée par un verset qui reviendra 31 fois dans cette sourate. Cette sourate a cette spécificité, c'est qu'elle est ponctuée 31 fois par ce verset où Dieu subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il a cité un de ses bienfaits dans lequel se manifeste sa miséricorde, il dit « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité cette sourate, il y avait les compagnons qui étaient assis. Et lorsqu'il a terminé sa sourate, il a dit « Qu'est-ce qui vous arrive ? Lorsque je la récitais, vos frères, les djinns, ils sont là, à chaque fois que je disais et je récitais le verset, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il disait, Seigneur, nous ne renions aucun de tes bienfaits. Et nous, lorsqu'on lit cette sourate, c'est ce qu'on doit dire. Et Seigneur, je ne renie rien. Je ne renie rien de tes bienfaits et de tes dons et de ta miséricorde. Et si on regarde comment la révélation était faite pour les prophètes et comment la révélation venait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on verra que c'est pas une tâche facile. On verra que c'est une situation et que c'est une opération vraiment difficile. C'est une opération spirituelle, même très très contraignante et très difficile à supporter, même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été armé spirituellement par Dieu subhanahu wa ta'ala pour recevoir la lumière de la révélation, pour recevoir cette lumière qui sans la miséricorde brûlerait tout sur son passage, parce que c'est la lumière divine. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit en parlant de cette révélation, il dit « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'avais pulvérisé par crainte de son Seigneur. Par crainte de son Seigneur. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala nous décrit le rendez-vous de Sayyidina Moussa, Moïse, sur le mont Sinaï, lorsqu'il a eu rendez-vous avec son Seigneur et qu'il est arrivé sur le mont Sinaï et que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a parlé, Moïse a eu envie de voir son Seigneur, a eu envie de voir, comme tout croyant, de voir son Dieu. Et il dit, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. Il dit subhanahu wa ta'ala, il dit, tu veux me voir, ô Moïse, regarde, tu ne me verras pas, mais regarde cette montagne, je vais me manifester. Et je vais me manifester. Regarde cette montagne, si elle reste en place, tu me verras. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala s'est manifesté, seulement manifesté à la montagne s'est pulvérisée et Moussa est tombé sur son visage évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit subhanak, gloire à toi Seigneur, tu es au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Tu es au-dessus de toute qualification, tu es au-dessus de toute description, tu es au-dessus de tout. Regardez comment la révélation est difficile même pour les prophètes les plus rapprochés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit lorsque la révélation, les différentes formes de révélation, il dit des fois l'archange Gabriel venait sous la forme d'un compagnon. Et le prophète aimait cette façon. Et il disait, et des fois, j'entendais des sons de cloches et de clochettes, et la révélation venait, et c'était là la chose la plus difficile. Puisque les compagnons le décrivaient lorsqu'ils recevaient la révélation, s'il était sur la chamelle était obligée de descendre à terre. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. La montagne, elle est pulvérisée. Que dire de la chamelle? La révélation ne peut pas supporter, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient très 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 lourde. Un jour, il était assis, il y avait un compagnon qui avait sa cuisse sous la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète commence à sentir la révélation, et la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à s'appuyer, à s'alourdir sur le pied du compagnon, et le compagnon commence presque à pleurer, et il dit, j'ai failli crier, parce que tellement c'était lourd. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle décrit cette scène, ou lorsqu'elle voyait le prophète qui recevait la révélation, elle disait, un jour d'hiver, il perlait en sueur. Ça veut dire que malgré tout ça, mais Dieu, malgré toute cette sueur, cette dureté à recevoir la parole de Dieu, Dieu lui dit, dans Surah Taha, il lui dit, طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Le miséricordieux, le tout miséricordieux interpelle l'envoyé qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Il lui dit, après avoir vu et su ce qu'il endure dans la révélation, il lui dit, طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux, mais c'est juste un rappel. Un rappel de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Ar-Rahman, ala l'archistawa, et là ce verset il est incroyable, parce que lorsqu'on regarde les noms de Dieu à travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on médite les noms et les attributs divins, il y en a combien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cite 99, il y en a d'autres qui ne sont pas cités mais qui sont dans la Sunna, et dans un hadith qui montre, dans un dua, Allahumma inni ana as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa bi kulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istafarta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Je te demande par le nom que tu as révélé, ou le nom que tu as caché, ou les noms que tu as cachés, c'est-à-dire qu'il y a des noms connus et des noms inconnus de Dieu subhanahu wa ta'ala et des attributs, malgré tous ces noms et attributs infinis de Dieu, Dieu a choisi un seul pour décrire le fait de s'établir sur le trône, Al-Arsh. Lorsqu'on regarde les rois sur terre, en général, lorsqu'ils s'installent sur le trône, c'est avec quoi? C'est avec tyrannie, c'est avec force, c'est avec barbarie, c'est des descriptions qui ne sont jamais des descriptions de miséricorde. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut nous faire montrer et nous faire comprendre à tous ceux qui liront le Coran, à tous ceux qui chercheront à connaître Dieu, que celui qui a créé les cieux et la terre et qui a révélé le Coran est un miséricordieux. Ar-Rahman, ala l'arsh istawa. Il n'a pas choisi Al-Jabbar, il n'a pas choisi Al-Qadir, Al-Qawi, il n'a pas choisi le fort, le puissant, etc., le contraignant. Il a choisi Ar-Rahman, Ar-Rahman, et ça on ne doit jamais l'oublier, quelle que soit notre situation, quel que soit le péché dans lequel on tombe, quel que soit notre éloignement de notre Seigneur, il faut toujours se rappeler que Dieu, c'est un miséricordieux qui est sur son trône. « Ana inda dhanni 'abdi bi, je suis ce que pense mon serviteur de moi. Je suis ce que pense mon serviteur de moi. » Et si on cite encore l'exemple de Omar radiallahu anhu, parce que c'est un exemple bien parlant avant l'islam et après l'islam. Avant l'islam, il est parti parce que, ça y est, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas supporter qu'on entende parler de ce prophète, Mohammed, etc., de cette nouvelle religion. Il a dit, ça y est, je vais lui régler son compte, je vais le tuer. Et il sort dans les rues de Midi, de la Mecque, avec son épée pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne sait pas que cette miséricorde va rentrer dans son cœur et va le changer en un instant. Et en passant, il rencontre une personne, il lui dit, où tu vas? Il lui dit, je vais tuer Mohammed. Il lui dit, avant d'aller régler les comptes des autres, va faire le ménage chez toi, il y a ta sœur qui est rentrée dans l'islam. Et il va frapper chez sa sœur, et sa sœur était avec son mari, qui était tous les deux musulmans. Ils étaient en train de lire cette sourate Taha, justement, qui a été révélée. Et il l'avait sur un parchemin, ils étaient en train de la lire. Et lorsque Omar rentre, il cache ce parchemin. Et Omar gifle sa sœur. Gifle sa sœur jusqu'à ce que le sang sorte de son nez. Et il lui dit, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Est-ce que tu es véritablement devenue musulmane? Elle lui dit oui. Il lui dit, qu'est-ce que vous étiez en train de lire? Il lui dit, tu ne peux pas toucher cette parole parce qu'elle est purifiée, tu dois d'abord te laver. Et il est parti se laver parce qu'il était curieux, mais aussi parce que cette miséricorde commençait à atteindre son cœur. Et lorsqu'il s'est lavé, il a pris cette feuille et il a lu Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. C'est comme s'il s'adressait à son cœur, au cœur de Omar. Au cœur de Omar qui était le barbare, qui était le fort, que personne ne pouvait lui parler, qui vraiment utilisait la force dans toute chose. Et là, il se dirige, il se met à pleurer. Et il se dirige vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, il est sorti pour aller le tuer. Il frappe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sourit et il lui ouvre la porte. Lorsqu'il rentre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prend et il le serre très fort. Et quelle est la sagesse dans cette façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahu a'lam. Il le serre trop fort à trois reprises. Et là, Omar lui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ». Regardez, ça c'est la manifestation de cette miséricorde. Également, si on médite, si on étudie notre religion, l'islam, on verra que la miséricorde est partout. Et partout, dans les prescriptions, dans les piliers, dans les objectifs de la religion. Et nous devons voir notre religion sous cet angle, si nous voulons réussir le prêche, si nous voulons réussir redonner une véritable image de l'islam dans ce pays et partout dans le monde. Nous devons voir, nous-mêmes chercher la miséricorde, parce que malheureusement, dans nos prêches, souvent il manque de miséricorde. Dans notre façon d'appeler les gens, il manque souvent de miséricorde. On utilise toujours le côté dur, on appelle les gens par l'enfer, on appelle les gens par la peur des péchés, on appelle les gens par le désespoir, alors que Dieu subhanahu wa ta'ala. Il s'est manifesté à nous par le miséricordieux. Il sait, l'enfer c'est le dernier point. Et même l'enfer a été créé par miséricorde pour que ce soit une déviation pour les gens qui veulent vraiment aller vers Dieu. Regardez ce chemin, il y a un stop, il y a un danger, c'est l'enfer. Et c'est par miséricorde que Dieu l'a mis ici pour que tu puisses changer de chemin, pour que tu dévies ton itinéraire et ton cheminement pour que tu reviennes à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et si on prend tous les versets, on peut les classer en trois catégories. Chaque verset rentre dans une des trois catégories. La première catégorie, c'est les versets concernant le dogme et l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout le Coran parle de l'unicité à l'aqida. Et combien nous avons besoin d'apprendre, d'étudier, de prêcher l'aqida sous forme de miséricorde. Et non sous des vers qu'on apprend par cœur. Et non d'une façon où on cherche toujours le mal. Cherchons le bien au lieu de chercher le mal chez les gens. On cherche toujours ce qui est haram au lieu de chercher ce qui est halal. On cherche toujours ce qui est bid'a, innovation. On cherche toujours les défauts au lieu de chercher ce qui est bien chez une personne. Et la personne, lorsqu'elle change sa vision de voir le monde et les autres, elle verra une rahma partout. Les seuls péchés et le seul défaut qu'elle verra, c'est dans son ego et dans Shaitan et dans son âme. Et un jour, Isa, Jésus alayhi salam, veut apprendre aux apôtres comment voir le monde, comment voir les choses. Il est passé à côté d'un cadavre qui est en train de se décomposer. Imaginez un cadavre d'un animal qui est en train de se décomposer, l'odeur, l'apparence, tout ce que vous voulez. Et les apôtres, ils sont passés, ils ont dit, quelle odeur, quelle odeur. Et Jésus alayhi salam, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il veut leur montrer, regardez le bien partout, ne regardez pas le mal. Il dit que ses dents sont blanches. Lui, il a regardé que les dents du cadavre qui étaient encore blanches. Regardez les dents. Et également, quand il lui dit, pourquoi tu réagis comme ça? Il dit, je ne veux pas habituer ma langue à dire du mal. Et quelqu'un qui veut parler du bien, qui veut parler du tout miséricordieux, il doit dire que du bien. Il doit faire entendre que les choses de bien. Il doit faire que des gestes de bien. Il ne doit blesser personne. La seule chose, le seul doigt qu'il doit diriger, c'est vers lui-même. C'est vers lui-même. Donc tous les versets, ils sont classés en trois catégories. Le premier, c'est les versets concernant le dogme, l'unicité de Dieu. Et la deuxième catégorie, c'est les versets concernant les prescriptions divines, c'est-à-dire la législation. Et la troisième catégorie, c'est les versets concernant l'éthique morale. Chaque verset, on peut le classer dans une de ces catégories. Et on verra que chacune de ces catégories, elle renferme la miséricorde. Sa base, c'est la miséricorde. L'objectif, c'est la miséricorde. Et le fondement de ces catégories sont la miséricorde. On n'a pas le temps de voir maintenant en détail chaque catégorie et donner des exemples, mais je vous renvoie, chacun va chercher une miséricorde ou plusieurs dans ces différents domaines. C'est pourquoi la question a été posée de tout temps, est-ce que le message de l'islam est venu pour servir l'humanité ou c'est l'humanité qui doit servir ce message? Non, l'islam est venu pour servir l'humanité. Et si on voit l'islam de cette façon-là, on fera que l'être humain, c'est lui la priorité. On verra, et c'est pour ça, subhanallah, il y a des exemples, même dans la législation. Quelqu'un qui voit, il faut faire les ablutions, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il ne faut pas faire cela. Il croit qu'il n'y a que des interdits, etc. Mais lorsqu'il médite ces interdits, lorsqu'il médite ces prescriptions, il verra que c'est l'âme de la miséricorde pour l'être humain même. Et la troisième catégorie qui est l'éthique morale, toute éthique morale auquel nous invite la révélation et le Coran, c'est pour justement faire revivre cette miséricorde entre nous. Regardez Zakat. Pourquoi? C'est pour qu'il y ait une justice sociale, qu'il y ait une miséricorde entre les gens, une solidarité. Regardez la prière. La prière, c'est pas seulement pour aller faire des gestes dans la mosquée et dire j'ai prié la prière en groupe, alors que ton frère, tu l'as rencontré, tu lui as même pas fait un sourire, tu lui as même pas fait salam. Lorsqu'on t'a tiré comme ça pour que tu te serres dans la prière, tu deviens nerveux et colérique, alors que le professeur s'en est dans la prière, lorsque les compagnons étaient en rang, il disait « Linou fi aidi ikhwanikum, soyez doux dans les mains de vos frères ». C'est-à-dire, s'il te tire, vas-y, il t'emmène où il veut, c'est mon frère, soyez doux. Et la prière a été, en groupe, a été instituée pour justement vivre 5 fois par jour cet amour et cette miséricorde au niveau du quartier. Et le jour du vendredi, au niveau de la région et de la ville, si les gens se rassemblent dans une mosquée. Et le pèlerinage lui-même, c'est pour vivre cette miséricorde et cet amour au niveau mondial. Chaque pilier, chaque prescription, chaque acte rituel, et baigne dans la miséricorde. Alors imaginez si nous, chaque acte, chaque adoration, on lui enlève son âme de miséricorde, qu'est-ce qu'elle va devenir? qu'est-ce qu'elle va devenir? Les musulmans vont faire peur, on va faire peur aux gens. Pourquoi? Parce que juste à nous voir, ils vont fuir, parce qu'ils ne voient pas cette miséricorde. Ils ne voient pas cette miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens le voyaient, même les pires gens, c'est-à-dire les gens vraiment très très loin de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils ressentaient cette miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour le monde. Le tout miséricordieux qui choisit un homme et qui en fait la miséricorde pour les mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui amenait un homme qui sans cesse buvait l'alcool, sans cesse buvait l'alcool. Et lorsqu'un jour les compagnons l'ont insulté, il dit ne l'insultez pas parce qu'il aime Dieu et son prophète. Il aime Dieu et son prophète. Il ne voit pas que le côté et les péchés. Et lorsqu'on oubliera et on baissera nos regards sur les péchés, Dieu subhanahu wa ta'ala nous pardonnera nos péchés. La ilaha illallah. Et si on prend les objectifs de ce qu'on appelle et qui fait tant peur, la charia, la charia al-islamia, ce mot qui, à l'entendre, fait vraiment trembler et qui fait peur et qui est synonyme maintenant de barbarie. Pourquoi ? Parce qu'on l'a appliqué toujours en lui enlevant la miséricorde. Parce qu'on a essayé de l'appliquer sans mettre les étapes de miséricorde, sans que les gens yani, aient compris et vécu. Et c'est pour ça que c'est devenu quelque chose de barbare et qui sonne comme barbare et qui fait peur aux gens. Les objectifs de la charia, la loi islamique, sont au nombre de 5. La première, et on verra que tout est miséricorde. La première, c'est la protection de la personne. La deuxième, c'est la protection de la raison. La troisième, c'est la protection de la race humaine. La quatrième, c'est la protection des biens. Et la cinquième des objectifs, c'est la protection de l'islam. Et lorsqu'on prend par exemple la protection de l'islam, la protection de la personne, Dieu à travers sa révélation et la législation, il veut protéger l'être humain. L'être humain est sacré, musulman ou non musulman. Quelle que soit cette personne, l'être humain est sacré. Et c'est pour ça qu'on dit que l'être humain est un pilier et la construction de Dieu sur terre. Malheur à celui qui détruit cette construction. Et dans un verset, celui qui tue une âme, musulmane ou non musulmane, celui qui tue une âme, celui-là c'est comme s'il avait tué toute la terre. Et celui qui sauve une âme, qui l'a fait vivre, celui-là a fait vivre toute la terre. La vie est importante, sacrée aux yeux de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu, la protection de la personne, c'est pour ça que le meurtre est interdit, c'est pour ça que le suicide est interdit, c'est pour ça que la violence sur autrui est interdite. Et vous prenez toutes les interdictions qui touchent à autrui et vous verrez que c'est pour protéger la personne. La protection de la raison, cette raison par laquelle on peut méditer, découvrir Dieu, justement vivre en société, respecter autrui, elle doit être préservée. Et c'est pour ça que la législation est venue pour interdire l'alcool, parce que l'alcool, ce que l'on peut dire, il détruit la raison et il fait perdre la raison et on perd ce contrôle et on peut détruire autrui. Également, il a interdit toute substance enivrante et toute substance qui peut altérer et toucher cette raison. La législation est là également pour protéger la race humaine. La race humaine est là pour découvrir Dieu, pour semer la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour être un témoin de Dieu sur terre. Et si elle est coupée, elle est annulée, il n'y a pas la sagesse que Dieu veut ne se réalise pas. C'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala a institué le mariage et a interdit la fornication, a interdit l'adultère, l'homosexualité, pour préserver quoi? Le noyau familial, et pour préserver la race humaine. La race humaine se préserve par la famille, par le noyau familial, et encore cette famille, elle doit avoir des limites, c'est-à-dire dans le cadre légal du mariage et non dans des cadres. Vous voyez maintenant la conséquence de la mort de la famille, la conséquence de ces règles de bienséance, de l'fitra, qui sont en fait des valeurs universelles, c'est pas seulement propre à l'islam, elles sont des valeurs universelles, on en paye et les sociétés en payent les dégâts, et ce n'est pas terminé. Également, la législation est venue pour protéger les biens. Et protéger les biens, c'est pour ça que Dieu interdit le vol, l'usure, etc. pour que le bien soit protégé. Également, le cinquième objectif de l'islam, c'est la protection de l'islam, parce que tout ceci peut être protégé si ta foi est protégée. C'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala interdit le polythéisme, l'athéisme, la mécréance, l'innovation religieuse et l'intégrisme, l'extrémisme, tout ce qui peut toucher à la foi. Donc regardez ces cinq objectifs de la religion. Et les savants, lorsqu'ils font un décret, lorsqu'ils essayent de tirer une loi, lorsqu'ils essayent de répondre dans un contexte, c'est dans l'esprit de sharia, l'esprit de miséricorde qu'il sort une fatwa. La ilaha illallah. Également, l'histoire. Comment est-ce qu'on doit voir l'histoire? On doit la voir sous cet angle et cette vision de miséricorde, puisque la miséricorde de Dieu se manifeste à travers l'histoire. Et si on fait une lecture de l'histoire à travers cet angle, on verra des choses incroyables. Et si on lit l'histoire de l'humanité avec la simple vision de destruction, d'horreur et de barbarie, on fait la même démarche que les Arabes qui ont ignoré le nom, le miséricordieux, et qui ont vécu dans la barbarie. Regardez la Seconde Guerre mondiale. Le Japon reçoit deux bombes nucléaires. Toute sa population, toute la société, tout le pays, tout le Japon est détruit, anéanti. Ça, c'est dans l'histoire. Mais celui qui voit la miséricorde, d'un bien, d'un mal, Dieu fait sortir d'un bien. Du mort, Dieu fait sortir le vivant. D'un état de barbarie, Dieu fait installer sa miséricorde. Maintenant, le Japon, regardez. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on arrive à croire qu'il a reçu deux bombes dans l'histoire sur le dos? Maintenant, c'est un des pays les plus avancés technologiquement, un des pays les plus riches. Regardez l'Irak. On voyait toujours l'attaque des Américains comme du côté d'horreur. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, mais j'invite mes frères et sœurs à lire l'histoire et ce qui se passe, le destin de Dieu, avec la signature de Dieu subhanahu wa ta'ala dans chaque. Dieu n'a pas oublié, Dieu n'est pas absent, ils n'ont pas dépassé la force de Dieu, et Dieu les contrôle, Dieu contrôle tout. Il faut voir cette miséricorde, ça fait naître la foi dans le cœur des Irakiens, alors que eux qui avaient vécu sous une laïcité qui était devenue une divinité et qui annulait toute religion et qui combattait toute forme d'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, des milliers de savants ont été égorgés, des gens ont été tués, des gens ont été massacrés et sortis de chez eux et exilés par le simple fait qu'ils disaient la ilaha illallah. Les gens se sont éloignés de Dieu. Avec ce massacre en apparence, avec cette invasion, l'Irak revient à Dieu subhanahu wa ta'ala. Uzair, lorsqu'il est rentré dans le Quds, il a vu des ruines. Il s'est dit, Anna yuhi hadihi Allahu ba'da mawtiha. Comment est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala peut-il faire revivre cette ville de ruines après cet état-là? Et Dieu subhanahu wa ta'ala le fait dormir une centaine d'années. Et il se réveille et Dieu subhanahu wa ta'ala lui donne le signe de sa puissance comment est-ce qu'il peut faire revivre ce pays de ruines. Voilà, il peut le faire comme toi, il t'a fait endormir 100 ans, ton âme maintenant après 100 ans est devenue, il a été décomposé, il n'y a que des os, et il voit sous son œil les os qui se rassemblent par l'ordre divin et que la chair habille ce squelette et que l'âme se met debout, 100 ans après, devant Uzair. Ça, c'est un signe pour nous aussi. Lorsqu'on voit notre communauté, on dit qu'on est dans les... Non, il faut voir la miséricorde de Dieu. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Le miséricordieux est sur le trône. Et c'est lui le juste. Il voit toutes choses. Nous devons œuvrer dans cette miséricorde. Et Dieu subhanahu wa ta'ala fera le reste. Parler de la miséricorde divine, sans parler du messager de la miséricorde, c'est vraiment, yani, omettre la plus grande partie. Et c'est, bon, malheureusement, vu le temps, je ne sais pas si on aura encore le temps de parler de cela, mais le prophète Mohammed, tous les prophètes ont été envoyés par miséricorde, mais le sceau de la prophétie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui donne un slogan avec lequel il a envoyé. Ce slogan, c'est ce verset du Coran. « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Oh Mohammed, nous t'avons envoyé pour les mondes que comme miséricorde. وَمَا أَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et dans une autre sourate de sourate At-Tawbah, le repentir, Dieu décrit ce prophète, cela il dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Il est venu parmi vous un envoyé. Et comment il l'a décrit, Dieu subhanahu wa ta'ala, cet envoyé? Il est parmi vous. Et il lui a donné un de ses noms. Il lui a donné deux noms de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Raoufun, Rahim, compatissant et miséricordieux. Et le prophète savait il savait, il vivait que c'était une miséricorde pour le monde. Sallallahu alayhi wa sallam, il a été miséricordieux envers les musulmans, envers les non-musulmans. Il a été miséricordieux envers les enfants, envers les femmes, envers les animaux, envers les choses, envers son entourage. Il a été miséricordieux même envers ses ennemis. Même les gens qui l'ont combattu dans la Mecque pendant des années, qui l'ont tué, qui l'ont insulté, qui l'ont touché dans son honneur, qui l'ont blessé dans les choses les plus chères, qui ont massacré les gens qui étaient les plus proches de lui, il leur a pardonné. Parce que c'est une miséricorde pour le monde. Et c'est aussi pour nous, on doit apprendre à pardonner. On doit apprendre à pardonner et à partager parce que, Wallah al-Azim, je jure par Dieu subhanahu wa ta'ala, que ce monde changera, que notre situation ne changera que lorsque on combattra, comme disait l'imam Hassan ibn Rahimallah, que lorsqu'on combattra les gens avec l'amour, avec la miséricorde, le croyant est comme un arbre, les gens lui lancent des pierres et lui leur lance ses fruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était cette miséricorde. Ra'oufun Rahim, miséricordieux et compatissant. Et Dieu lui dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ô Muhammad, si ce n'est pas une miséricorde de Dieu qui s'est installée dans ton cœur, et si tu avais été dur avec eux, personne n'aurait répondu à ce message. Tous se seraient éloignés de toi. Et ça aussi c'est un message pour moi et pour vous, chers frères, lorsqu'on appelle à Dieu, qu'on appelle avec miséricorde, ne pas faire peur aux gens, ne pas blesser les gens, accepter tout le monde, parler, annoncer la bonne nouvelle. Le jihad de cette époque, un des grands jihad, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Wastaghfir lahum, demande pardon pour eux. Washawirhum, demande pardon par eux et consulte-les. Et la consultation, c'est justement la manifestation de la miséricorde pour les gens. Lorsque tu ne consultes pas quelqu'un qui est avec toi dans ton groupe, il est blessé et il ne ressent pas de miséricorde envers toi. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et lorsque tu as pris une décision ferme, là, remets-toi-en à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et dans maintes et maintes hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit cette formule du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَّرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي. Plein de hadiths qui commencent par cette phrase: si je n'avais pas peur de trop charger ma communauté, je leur ai conseillé ou je leur aurais dit d'utiliser le siwak pour chaque prière. Et un jour, il y avait des compagnons qui sont sortis et dans une expédition et un d'eux était blessé. Et lorsque le matin, il s'est réveillé en état de janaba, il était blessé, il ne pouvait pas se laver. Il a demandé aux gens qui étaient avec lui, aux compagnons, il leur a dit, est-ce qu'il m'est permis de faire l'ablution sèche, tayammum, parce que je ne peux pas me laver parce que j'ai des blessures et l'eau très froide. Ils lui ont dit, non, il faut que tu fasses tayammum, il faut que tu fasses l'eau d'eau, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala a parlé de l'eau, et c'est le côté de Dieu. Et il est mort, ce compagnon. Et lorsqu'on a rapporté cette histoire au prophète, il a dit, qatalou, qatalahumullah, qatalou, qatalahumullah, ils l'ont tué, que Dieu les tue. Il suffisait qu'ils fassent les ablutions. Et c'est pour ça, une des règles de le faire, de la jurisprudence de l'islam, c'est quoi? Une des règles, c'est quoi? C'est « hafdul abdan awla min hafdil adyan ». La protection des corps passe avant la protection de la religion. Lorsque ton corps est en jeu, tu peux renier la religion. Lorsque ton corps, tu es malade, tu peux faire la prière assis, tu peux faire la prière couchée, tu peux faire la prière avec tes yeux. Lorsque, regardez les facilités dans la religion. Alors si nous on prend notre méthode pour prêcher et parler de la religion que du côté dur, on prend que les fatwas et les choses qui font vraiment dur, comment est-ce qu'on va faciliter? Les hommes pieux, ils disent, sois dur envers toi, sois exigeant envers toi et facilite pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunfiru. Facilitez et ne rendez pas les choses aux gens difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il parle de son prophète, il dit wa nu yassiru kalil yusra, et nous allons te faciliter toutes choses. Donc toutes choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait la chose la plus facile si ce n'était pas interdit. Il abandonne la prière de Tarawih et pendant le ramadan, il faisait la prière de Tarawih et puis les gens commencent à sortir et faisaient la prière derrière lui. Et lorsqu'il a vu que les gens venaient tous les soirs derrière lui, il a abandonné, il n'est plus sorti. Pourquoi ? Par peur que cette prière de Tarawih soit rendue obligatoire pour la communauté, et par miséricorde envers eux, il sait très bien qu'ils ne peuvent pas l'assumer. Et c'est pour ça que viendra Omar, il la fera revivre, mais en tant que quelque chose de sunnah et non en tant que chose obligatoire. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète était en train d'embrasser le Hassan et le Hussein. Et cet arabe, cet homme était étonné. Il dit, moi j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un. Parce que c'est la dureté du cœur, on croit que c'est ça être un homme, on croit que c'est ça ne pas montrer sa faiblesse, et des choses comme ça, même envers son épouse, envers ses enfants, etc. Il y a une mauvaise compréhension de cette miséricorde. Et le prophète, vous savez ce qu'il lui dit ? Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi si Dieu t'a enlevé la miséricorde de ton cœur ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Man la yarham la yurham, celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Un jour, le prophète sallam était dans la mosquée. Vous savez tous ce que c'est que la mosquée, c'était de l'ambiance qui règne. Et pour la plupart du temps, il y a surtout une ambiance trop solennelle qui règne et qui entraîne une situation de dureté, mais c'est une situation de miséricorde. La miséricorde ne va pas à l'encontre du respect. Le prophète qui est dans la mosquée, il est imam en train de faire la prière, une prière obligatoire, et il fait as-sujoud, il se prosterne. Et son petit-fils, Al-Hussein ou Al-Hassan, il monte sur son dos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se relève pas, alors que les gens sont derrière lui en train d'attendre. Il ne se relève pas jusqu'à ce que les gens n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Pendant je ne sais pas combien de temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se relève pas. Et lorsque le Hassan descend du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait salam, il se tourne vers eux et il leur dit « Inna bni hadha irtahalani fakarihtu an aquma qabla an yaqdiya hajata » Mon petit-fils m'a pris comme monture, et je n'ai pas aimé le déranger avant qu'il ait fini. Et ça, subhanallah al-azim, c'est une miséricorde même dans l'éducation des enfants. Si tu veux que ton fils soit une réussite dans l'éducation, si tu veux que ton enfant soit un modèle, si tu veux que ton enfant suive le chemin et la foi de Dieu subhanahu wa ta'ala, comble-le. Comble-le, pourquoi ? Parce que chaque être humain, si tu ne le combles pas, il cherchera ailleurs. Et le prophète, même dans le jeu, il a voulu combler cet enfant jusqu'à ce qu'il soit rassasié du jeu. Dans quoi ? Dans la prière qui est une obligation. Imaginez ça dans une de nos mosquées maintenant, où l'imam, son fils ou n'importe qui monte sur le... Je ne donne pas cher ni de l'imam ni de l'enfant. Le prophète, lorsqu'il entamait la prière, il faisait Allahu Akbar avec l'intention de faire une prière longue. Et il entend dans les rangs des femmes un enfant qui pleure. Et il raccourcit sa prière. Allahu Akbar. Il raccourcit sa prière, un pilier de l'islam, par miséricorde, parce qu'il sait ce que c'est que le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère, comment il vaut ? Parce que lui, il est miséricordieux, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il était miséricordieux même envers les animaux. Un jour, il rentre dans un jardin des Ansar et un chameau arrive en pleurant. Ça peut nous faire rire, il peut nous étonner, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé comme miséricorde pour les mondes, donc il comprenait même les animaux. Il entendait même les arbres le saluer avant l'islam et les pierres, et lui disait « Assalamu alayka ya Rasulullah ». Et lui, il se retournait à la Mecque alors qu'il n'était pas encore prophète. « Assalamu alayka ya Rasulullah », parce que le monde entier, les plantes, l'univers, les animaux, annonçaient la bonne nouvelle et attendaient l'arrivée du miséricordieux, de l'envoyé du miséricordieux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce chameau vient en pleurant chez le prophète, il se plaint de son maître qui l'accable. Et le prophète se met en colère, il dit « Où est le maître de ce chameau ?» Et lorsqu'il vient, il lui dit « C'est moi, ya Rasulullah ». Il lui dit « Crains Dieu dans cette bête ». Crains Dieu dans cette bête et ne lui fais pas supporter ce qu'elle ne peut pas. Un jour, les compagnons sont sortis. Il y avait Ibn Abbas, radiallahu anhum, il raconte, il dit, et nous avons trouvé un nid d'oiseaux et nous avons pris les petits oiseaux. Et tout d'un coup, on voit l'oiseau, la mer qui commence à faire des survols autour de nous et à crier. Vous avez tous vu, lorsqu'un oiseau tombe du nid, sa mère commence à tourner et à crier, etc. Et lorsque le prophète voit ça, il se met en colère. Il lui dit, qui lui a fait peur ? Qui l'a dérangé ? Rendez-lui son enfant. Alors, ça c'est des animaux. Ça c'est des plantes. Que dire de l'être humain qui est entre nous, qui est avec nous, notre frère, notre sœur, notre voisin, notre... Comment doit être cette miséricorde pour un être humain ? Comment elle doit être ? Également, Dieu subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète. Regardez comment il décrit le prophète sur les compagnons. Il dit Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont avec lui sont miséricordieux entre eux et durs envers les ennemis de Dieu. Regardez comment il a décrit la miséricorde avant ce qui viendra après dans la suite des versets. Il dit et tu les verras prosternés, inclinés. Avant de les décrire comme en prière, il les a décrits comme miséricordieux. C'est-à-dire avant la prière, avant toute chose, c'est la miséricorde qui passe. Également, si le prophète était quelqu'un de miséricordieux, ceux qu'il a éduqués ne peuvent être que miséricordieux. Regardez Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui « Arham ummati bi ummati Abu Bakr ». Le plus miséricordieux envers ma communauté, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et Abu Bakr, on le sait très bien, et lorsqu'on lit sa vie, c'est une vie de miséricorde. Une vie de miséricorde, la douceur même, jusqu'à ce que les gens fuyaient de Omar pour aller vers Abu Bakr radiallahu anhu. Mais Omar aussi, il était très miséricordieux, puisque lorsque Abu Bakr est mort, et que Omar a été le second calife, après Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, les gens ont commencé à trembler, à avoir peur. Ils ont dit, Omar, lorsque c'était Abu Bakr qui était calife, vraiment il était dur. Mais Omar était dur par miséricorde, c'était pour que l'islam soit respecté, pour qu'il y ait des lignes, et pour compléter également la personnalité de Sidna Abu Bakr. Les gens ont eu peur, ils ont été se plaindre, et Omar il leur a dit, qu'avez-vous, je vous vois, il y en a pour eux. Ils ont dit, Yanni, on te voit maintenant, comment tu étais dur avec nous lorsqu'il y avait Abu Bakr calife, maintenant que toi tu es devenu calife, qu'est-ce que ça doit être? Il dit, je jure par Dieu, je n'étais dur que pour compléter avec Abu Bakr, pour qu'il y ait une société, Yanni, qui tient la route. Mais maintenant que Abu Bakr est mort, je serai le plus miséricordieux envers vous. Et c'est vrai, Abu Bakr, Omar radiallahu anhu, il sort la nuit en pleurant, il sort la nuit dans un hiver vraiment glacial, à Médine. Le jour il fait très chaud et la nuit il fait très froid. Et il cherche les orphelins, il cherche les maisons où il y a un problème. Il allait en cachette faire le ménage à une vieille aveugle. Il portait, alors qu'il était calife, c'est-à-dire gouverneur qui avait les tâches les plus difficiles. Et c'est avec miséricorde que l'on peut semer la justice yani, autour de nous. Abu Bakr radiallahu anhu, par sa miséricorde, lorsqu'il a fait le hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour et par miséricorde envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tantôt il se mettait à sa droite, tantôt il se mettait à sa gauche, tantôt il se mettait devant, tantôt il se mettait derrière. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as, il y a Abu Bakr? Il lui dit, quand je suis à ta droite, je pense que l'ennemi va venir te toucher par ta gauche, alors je me mets à ta gauche. Lorsque je suis à ta gauche, je pense qu'il va venir devant, et alors je le mets devant. Lorsque je suis devant, Subhanallah, comme une mère de famille pour son fils, pour son enfant, et c'est comme ça qu'on doit être envers nos frères. Les compagnons étaient prêts à mettre leur corps pour recevoir des épées, pour recevoir des coups de flèche, pour que son frère ne soit pas touché. Et nous, on doit être comme ça, le musulman. Notre frère doit être sacré, notre sœur doit être sacrée. Et on ne doit pas, nous, malheureusement, nous retrouver nous-mêmes en train de les combattre. Et lorsque le prophète se réfugie dans une grotte pour se reposer, Sidna Abu Bakr pénètre dans la grotte avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déchire ses vêtements, il prend des morceaux, et à chaque fois qu'il voit un trou dans la caverne, il le bouche par peur qu'il y ait un serpent qui puisse piquer le prophète. Et il ne restait plus qu'un trou à boucher, il n'avait plus rien pour le boucher parmi ses habits, il rentre son pied et il bouche ce trou avec son pied. Et Qadar Allah, il y a un serpent justement dans ce trou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allonge sur la cuisse de Sayyidina Abu Bakr. Deux hommes yani, exceptionnels dans l'histoire de l'islam et de l'humanité. Regardez cette scène de miséricorde. Un homme qui a la cinquantaine, un homme qui a la soixantaine, un homme qui a la cinquantaine, et l'autre, celui qui a la soixantaine, il est couché, sa tête sur sa cuisse. Et il s'endort, le prophète s'endort. Et le serpent pique le pied de Sayyidina Abu Bakr. Et le venin commence à circuler dans son pied. Et lui, par miséricorde, il ne veut pas déranger le prophète dans son sommeil, jusqu'à ce que la douleur lui fait perler des larmes et qu'il tombe sur la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète se réveille, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, Abu Bakr? Il lui dit, j'ai été piqué par un serpent. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met de sa salive sur la morsure et il est guéri. Il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Abu Bakr était miséricordieux envers tout le monde et envers sa communauté. Également, on ne peut pas oublier si j'ai parlé de la miséricorde de Dieu à travers ça, je n'ai pas voulu juste traiter le sujet au niveau juste de pardonner les péchés, etc., parce que c'est beaucoup plus large. Les péchés, c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu parmi les manifestations illimitées, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Wasi'at rahmatuhu kulla shay » وسعت رحمة وعلما يعني ta science et ta miséricorde est étendue à toute chose. C'est pour ça qu'il y avait un homme pieux, il disait dans un verset, Dieu subhanahu wa ta'ala dit ma miséricorde est proche de ceux qui sont bienfaisants, les hommes saints, les femmes saintes, les hommes très rapprochés. Satan lui disait, Seigneur, je ne suis pas un homme rapproché, je ne suis pas un homme pieux, et ta miséricorde leur est réservée. Mais j'ai lu dans un verset que ta miséricorde est étendue à toute chose, et moi je suis une chose que ta miséricorde s'étende à moi. Dans un hadith du prophète sallam, il dit, أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالْ أَيْ رَبَّ لَقَدْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَغْفِرْ لِي ذَنْبِي قَالَ اللَّهُ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فقد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي ثم إنه أذنب ذنبا آخر فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. Yani la miséricorde de Dieu dans l'absolution des péchés. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un serviteur de Dieu qui a commis un péché. Et il a demandé sincèrement pardon à Dieu. Et Dieu lui a pardonné. Et il a refait un péché. Et Dieu lui a pardonné. Et il a refait un péché. Et Dieu lui a pardonné. Et pourquoi le prophète il répète sans cesse cela? Ce style, c'est pour nous montrer que la miséricorde, Dieu ne s'arrêtera de te pardonner que lorsque toi tu en auras marre de demander pardon. C'est-à-dire que sa miséricorde dépasse le péché. Et plus le péché est grand à nos yeux, et plus il est petit aux yeux de Dieu subhanahu wa ta'ala, et négligeable. Parce qu'un péché, ou tous les péchés du monde, à côté de la miséricorde de Dieu, il n'y a pas de poids. Et plus le péché dans notre cœur et à notre yeux est méprisable et petit, et plus il grandit chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il y a un verset du Coran, où Dieu dit « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » Ô vous, mes serviteurs, qui vous êtes accablés de tant de péchés, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, parce que Dieu pardonne tous les péchés. Et si Ibn Ali radiallahu anhu, il dit, c'est le verset le plus large en espoir dans le Coran. C'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas fermé l'espoir. Alors pourquoi fermer l'espoir chez les gens? Pourquoi fermer leur espoir? On leur dit, il dit j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Ah, dis mon frère, t'es foutu ton dossier. Même, on entend, il y a une personne, subhanallah, une fois j'ai entendu, une vieille dame, elle disait, est-ce que c'est vrai qu'après avoir passé 40 ans, on n'a plus de repentir? Parce qu'il y a des gens qui véhiculent cette barbarie, ce fait de faire désespérer les gens. Il y aura des gens qui seront en enfer parce qu'ils auront fait désespérer les gens de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand péché, c'est celui de désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est celui de désespérer. Comme le plus grand péché, c'est aussi celui de se croire en sécurité. Également, lorsqu'on dit Allahu Ghafurur Rahim, ça veut dire qu'il doit y avoir des actes. On doit s'exposer à cette miséricorde. On doit essayer de revenir à Dieu et lui demander pardon. Une autre histoire, Inch'Allah, c'est celui de Moïse avec son peuple pour montrer l'absolution, la miséricorde dans l'absolution des péchés. Les fils d'Israël ont été atteints de sécheresse à l'époque de Moïse, de Moussa alayhi salam. Et lorsqu'ils ont été atteints de sécheresse, Moussa est sorti avec son peuple pour demander la pluie à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils se sont réunis plus de 70 000 personnes. Plus de 70 000 personnes avec Moïse alayhi salam pour demander la pluie. Et lorsqu'ils se mettent à demander la pluie, il y avait quelques nuages dans les ciels qui ont vite fait de disparaître et le soleil est encore de plus en plus ardent. Et Moïse alayhi salam dit, Seigneur, nous t'avons imploré et tu ne nous as pas donné la pluie. Quelle est la raison? Et Dieu subhanahu wa ta'ala lui dit, parce qu'il y a parmi vous un pécheur qui est en train de me déclarer la guerre avec ses péchés depuis 40 ans. Dites-lui qu'il sort de vos rangs. Et Moïse alayhi salam dit, Seigneur, comment est-ce que je vais appeler au milieu de 70 personnes? Ma voix, comment elle va porter? Il lui dit, appelle et moi je ferai le reste. Et Moïse alayhi salam, il dit, oh toi le serviteur qui a déclaré la guerre à Dieu pendant 40 ans avec tes péchés, sors de nos rangs pour que Dieu puisse nous faire miséricorde, parce que c'est à cause de toi que Dieu nous a privés de cette miséricorde qui est la pluie. Et Dieu révélera à Moïse alayhi salam, il lui dira que ce serviteur, au milieu de ces 70 000 personnes, lorsqu'il entendra cet appel, il regardera à droite et à gauche et autour de lui pour voir s'il n'y a pas une personne qui va sortir. Et lorsqu'il ne voit personne sortir, il dit « Ouais, c'est bien moi, c'est bien moi ce serviteur ». Et là, il commence à avoir un dialogue que Dieu subhanahu wa ta'ala entend et voit et est témoin. Il se dit au fond de lui-même « Si je sors, je vais être la risée et la honte de tout le monde devant 70 000 personnes. Et si je reste privé de cette miséricorde à cause de moi ?» Et vous savez ce qu'il fait ? Il prend son vêtement, il rentre sa tête et il commence à pleurer. Et il dit « Seigneur, pendant 40 ans, tu ne m'as pas trahi, tu ne m'as pas exposé mes péchés au grand jour. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, je reviens à toi. » Et avant qu'il termine ses paroles, des pluies abondantes tombent du ciel. Et Moussa, il ne comprend rien. Il dit, personne n'est sorti, la pluie est tombée. Il dit, Seigneur, quelle est l'explication ? Il lui dit, la pluie est tombée grâce à celui, je vous ai privé, je vous ai donné la pluie par le serviteur à cause de qui vous avez été privé. C'est-à-dire, celui-là, c'est grâce à lui que je vous ai donné la pluie. Et Moïse, il dit, Seigneur, montre-moi que je connais ce serviteur repentant, que je le vois. Et Dieu lui répond, il lui dit, je ne l'ai pas trahi pendant 40 ans alors qu'il me désobéissait. Comment est-ce que je vais le trahir maintenant qu'il m'obéit ? Regardez la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com. Vous pouvez également commander notre catalogue en nous écrivant aux éditions Tawhid, boîte postale 6100, 69392, Lyon, CEDEX 03.